de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierres et de notes. Toujours en compagnie d'Yves Gourina, professeur des universités en structure et physique, il est aussi organiste. Bonjour Yves.
Bonjour Blandine.
Aujourd'hui, nous allons aborder le tempérament de l'orgue et les gammes. D'après vous, le tempérament, c'est effectivement le procédé qui permet l'accord des instruments. C'est grâce à lui qu'il y a des intervalles qui sont réguliers ou irréguliers. Comment procéder avec cette différence entre les tempéraments dans les orgues ?
Merci pour cette question qui est très intéressante parce qu'elle relie la physique et la musique. Alors pour ça, il faut partir de l'intervalle qui est universel à toutes les civilisations, à toutes les cultures, qui est l'octave. Alors l'octave, c'est simplement le doublement de la fréquence, tout simplement. Alors je ne vais pas chanter beaucoup parce que ça risque de faire pleuvoir dans le studio, mais simplement l'octave c'est pom, pom, et depuis toujours, Homo sapiens sapiens a chanté cette octave-là comme étant l'identité. C'est simplement le chiffre 2, je double la fréquence. Alors, il y a deux façons de grimper cette octave. Tout comme vous avez deux façons de grimper une certaine altitude. Mettons que vous ayez 2 mètres à monter, vous pouvez franchir une rampe continue ou un escalier avec des degrés. Alors, la rampe continue, c'est... Voilà, c'est tout simplement le violon où vous faites glisser le doigt sur la corde. On comprend que ça monte, on fait un balayage en fréquence continue. Et puis vous avez la manière, si j'osais, je dirais quantique, quantifiée, ça correspond d'ailleurs à 2 visions de la physique, une vision continue, c'est celle d'Einstein, et une vision quantique, qui est celle de Bohr. Et donc, quand on a des instruments digitaux, au sens propre, c'est-à-dire avec les doigts, hein, que par exemple une vielle à roue, ou un clavier, ou même la guitare, où vous avez des frettes, effectivement, sur la guitare qui permettent d'avoir des longueurs définies, eh bien, il faut diviser l'octave. Et c'est là que les ennuis commencent. Alors, c'est Pythagore qui s'en est occupé, et il est parti de l'intervalle qui vient immédiatement après l'octave. Si on ne multiplie pas la fréquence par 2, mais par 3, on obtient la quinte. Et là, on va le voir, pom, pom, pom. Zarathustra de Strauss n'est pas loin, on le voit. Et donc, c'est cette quinte, le coefficient 3, qui va nous permettre de diviser l'octave. Alors, la première idée, d'enchaîner les quintes les unes derrière les autres. Voilà, et ben, c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec un violon, puisque vous avez remarqué que les cordes du violon sont accordées en quintes les unes avec les autres. Alors, si on monte 2 quintes au-dessus et 2 quintes au-dessous, par exemple, si on part du Do, d'ailleurs, historiquement, la première clé, c'est la clé d'ut, c'est la clé de Do hein, qui est apparue. Et on a monté une quinte au-dessus, c'est devenu la clé de Sol. Une quinte en dessous, c'est devenu la clé de Fa. Ce qui a permis de bâtir une portée avec une portée au-dessus, la portée de la main droite, une portée en dessous, la portée de la main gauche, pour faire simple. Voilà. Et donc, si on fait ça 2 fois, je vais me retrouver avec 2 quintes au-dessus du Do et 2 quintes en dessous. Et j'ai construit une gamme à 5 sons. Qu'on va appeler une gamme pentatonique, qu'on appelait autrefois une gamme défective. Mais j'aime pas ce terme parce que on pourrait croire qu'il y a un défaut. Il n'y a absolument aucun défaut dans la gamme défective, c'est simplement qu'elle n'est pas complète. Et donc, avec 5 notes, effectivement déjà, et je le dis, c'est un scoop que je donne pour les improvisateurs à l'orgue, avec une gamme défective, on peut improviser déjà très très bien. Pour faire simple, ce sont les notes noires du piano. Ta da ta da ti de da ta ti tam tam. On peut même chanter des chants très beaux sur ces 5 notes, et donc un truc assez infaillible, mais limité quand même. On peut improviser uniquement sur les touches noires, on est sûr de retomber sur ses pattes.
C'est un tempérament égal ou inégal ?
Alors, celui-là, il est encore inégal. Celui-là est encore inégal parce qu'il est incomplet. Justement, on va aller vers l'égalité quand on va vouloir compléter tout ça. Parce qu'avec 5 notes, on ne va pas très loin. On peut encore en rajouter 2 autres. Et on arrive toujours dans le mode inégal. On arrive à la gamme à 7 notes que nous connaissons, dont vous savez, Guy d'Arezzo, dans son fameux poème Ut quant laxis, a donné le nom des notes que nous connaissons, Do, Ré, Mi, etc. Et donc, ces 7 notes-là. Très bien. Alors on pourrait croire qu'avec cette note, eh bien non. Eh bien non, parce qu'il manque quelque chose. Vous savez, c'est même une philosophie de la vie. La création est en permanence complétude. Et c'est à nous, d'ailleurs, de la compléter. Bon. Et donc, mais on ne va pas rentrer là-dedans, quoique. Et donc, on va se retrouver avec des gammes à 5 notes, qui sont un peu la gamme chinoise, d'ailleurs, vous l'avez entendu, hein, très orientale. Et puis des gammes à 7 notes, plutôt la gamme occidentale, la gamme de Pythagore, mais qui est encore inégale. Et là, on va s'apercevoir que si on veut aller plus loin, on a un problème. Houston, we have a problem. C'est que si on enchaîne les quintes jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on le fait non pas 5 ou 7 fois, mais l'ensemble des deux, 5 plus 7, ça fait 12. Vous savez que toute la numération antique était basée sur le chiffre 12 parce qu'on comptait sur ses doigts, sur les phalanges, en prenant le pouce comme pointeur. Les œufs, d'ailleurs, vous les achetez toujours par 12. Hein. Et donc, on pointait sur ces phalanges des 4 doigts, ça fait 12. On achète une douzaine de dromadaires. Voilà, c'était comme ça qu'on faisait dans l'Antiquité. Si on enchaîne 12 quintes les unes sur les autres, eh bien, on n'arrive pas tout à fait à une octave entière. Pas tout à fait. Tout est dans le pas tout à fait. C'est très simple. Si vous faites le calcul, amusez-vous avec une calculette ou avec Excel à calculer 3 puissance 12 ou 2 puissance 18. Vous allez trouver quasiment la même chose, à 1% près. Et tout est dans le quasiment. C'est-à-dire que le cycle des quintes ne va pas se refermer totalement. Il y a 1% d'écart, ce 1% on va l'appeler un coma. Et donc, ce qui montre qu'avec des quintes pures, on ne peut pas diviser l'octave.
Est-ce que cela fait appel aux fréquences ?
Absolument, mais bien sûr, puisque quand je dis facteur 2, facteur 3, c'est bien sûr sur les fréquences que l'on joue. Bien sûr. En hertz, si vous voulez, en cycle par seconde. Et donc Bach s'en est aperçu de ça. Et à l'époque, John Napier, dit Napier, il avait déjà publié les logarithmes, mais ça n'était pas encore vraiment dans la culture commune. Et donc Bach n'a pas pu diviser cette octave en 12 de manière logarithmique, telle qu'il aurait fallu le faire pour faire une gamme tempérée. Néanmoins, il a inventé une gamme qui est presque la gamme tempérée que nous connaissons aujourd'hui, la gamme et le tempérament égal, qui est le tempérament que Bradley Lehman, un chercheur américain, a redécouvert il y a quelques années et qui figure sur la première page du clavier bien tempéré. Il a fait des schémas avec des volutes qui sont de dimensions légèrement inégales pour expliquer comment il accordait son clavecin à un tempérament qui est presque égal. Alors maintenant, il faut parler du tempérament égal. On va diviser l'octave en 12 intervalles logarithmiquement égaux, c'est-à-dire de façon à ce que quand on multiplie la fréquence par la même quantité en passant d'un demi-ton à l'autre, on retombe exactement sur l'octave. Exactement. Alors pour ça, on est obligé de faire une quinte qui est pas tout à fait exact. Je vais vous donner les chiffres, c'est très simple. Le demi-ton, tel qu'on le définit dans l'octave tempérée, c'est 1,06, à peu près 6% d'augmentation de fréquence d'un demi-ton à l'autre. Quand vous multipliez ça par 7, c'est-à-dire vous passez du do au sol, on arrive à 1,498, alors que si on avait une quinte exacte, ce serait 1,5. Alors vous voyez que la quinte n'est pas très fausse quand même. Hein. Il faut une oreille très très aiguisée pour sentir la différence, mais elle n'est pas tout à fait exacte. Mais le gros avantage avec des intervalles rigoureusement égaux d'un demi-ton à l'autre, c'est que vous pouvez transposer sans rien changer. Donc vous n'avez aucune quinte exacte, mais elles sont aussi fausses ou aussi peu fausses quelle que soit la tonalité.
Donc vous nous proposez d'entendre le premier prélude
de Bach. Voilà, il jouait ce prélude quand il avait accordé son clavecin et qu'il voulait vérifier qu'effectivement son tempérament était correct. Thank you.
le tempérament inégal est peut-être plus riche qu'un tempérament égal.
Il est plus coloré, il a plus de caractère. Ben, vous savez, c'est un petit peu comme les personnes qui ont du caractère, ça a des qualités, mais ce n'est pas toujours facile à vivre. L'intérêt des tempéraments inégaux, c'est que certaines tonalités sont totalement justes, par contre d'autres sont totalement fausses. Si vous jouez en fa dièse majeur, par exemple, sur un orgue qui est accordé au tempérament inégal, ça va frotter un peu. Après, ça a un certain charme, si j'ose dire, mais donc ça donne de la couleur. Alors le tempérament égal, évidemment, il a moins de couleurs, mais par contre, il est plus universel.
Donc, vous nous proposez d'écouter le Noël,
par exemple,
de Dakin.
Oui, parce que Dakin s'est intéressé à ces questions. Effectivement, entre-temps, vous savez, il y a des mathématiciens qui étaient passés. Et les instruments sont maintenant pratiquement tous accordés au tempérament égal, avec un intérêt extraordinaire, c'est qu'on peut transposer dans tous les demi-tons de manière égale. Et Bach l'avait anticipé avec le clavier bien tempéré, puisqu'il a voulu écrire dans les 24 tons une série de préludes et fugues dans les 24 tons. Donc il sentait très bien qu'on pourrait jouer sur ces 24 tons. J'en profite pour dire que Bach anticipait énormément de choses. Je pense que s'il avait connu le Steinway de concert, je pense qu'il l'aurait adopté.
Sur des orgues à tempérament égal ou inégal parfois ?
Les deux, oui. Mais les deux. Et si vous voulez, c'est vrai que pour la musique ancienne, qui est donc limitée à certaines tonalités, le tempérament inégal a un charme terrible. Mais pour la musique symphonique et contemporaine, évidemment, le tempérament égal est quand même beaucoup plus intéressant parce qu'on va moduler dans des tonalités improbables avec 7 dièses à la clé, par exemple, do dièse majeur. Donc le do dièse majeur sur un instrument à tempérament inégal, c'est assez dangereux. La tierce en particulier est assez fausse.
Merci Yves pour cette émission sur le tempérament et les gammes.
Merci Blandine, à bientôt.
À bientôt.
C'était De Pierre et de Notes, une émission présentée par Blandine Piccinini sur Radio Présence Lot.